Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de notre programme du week-end. Ce samedi, l'équipe de Radio Prague vous propose, comme d'habitude, deux reportages. Le premier est en effet un double reportage sur un nouveau festival du cirque lancé à Prague en ce mois d'avril. Il s'appelle Circopolis et sa première édition a été dominée par les troupes françaises et francophones. Un événement donc que Radio Prague n'a pas pu manquer. Notre second sujet du jour touche à la littérature. Václav Richter vous présentera un livre d'histoire conçu comme un guide de Prague dans sa période historique la plus sombre. Bonne écoute à toutes et à tous. Un nouveau festival du cirque contemporain a été lancé au mois d'avril à Prague. Après le très connu festival Letní Letná, le rendez-vous incontournable sous les grands chapiteaux à la fin de l'été, le festival Circopolis propose des productions plus petites en salle. Ces spectacles se distinguent par la multiplicité d'approches et les artistes eux-mêmes se servent de la technique circassienne pour aller vers d'autres genres comme la danse ou le jeu d'acteur. Pour cette première édition qui se tient jusqu'au 16 avril au palais de Acropolis, les organisateurs ont parié sur les artistes francophones.
Culture sans frontières.
Marta Torrens et Pau Portabella, deux artistes catalans basés à Toulouse, ont proposé au public pragois leur spectacle minimaliste et intime « Fait à main » qui a eu sa première en avril 2013. Avec une technique parfaite, les portées acrobatiques dominent cette rencontre entre un homme et une femme où on retrouve peu de cirque au sens propre du terme. Le cirque classique fait place à la danse et au jeu d'acteurs. Le spectacle qui parle d'amour mais aussi de folie met en scène une recherche interminable de la proximité et de l'intimité. Marta Torrens et Pau Portabella ont répondu aux questions de Radio Prague. Vous êtes tous les deux originaires de la Catalogne, mais vous vous connaissez depuis la France ?
On s'est connus à Barcelone, à l'école de cirque de Barcelone. Après Barcelone, on a fait l'école de cirque de Le Lido. C'est une école professionnelle. Là, il y a 8 ans qu'on habite à Toulouse.
Oui, en fait, nous, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Et 8 ans, c'était en France. On a été 12 ans à Barcelone et après, on est partis ensemble en France.
Et pourquoi est-ce que vous avez choisi le nom Fait à main ?
Fait à main, en catalan, ça veut dire fait à la main, quelque chose d'artisanal. Et on l'a choisi parce qu'en fait, notre travail, c'est vraiment beaucoup nous qu'on le fait déjà et que vu qu'on n'utilise pas d'artifice, c'est vraiment du corps sur scène et aussi du chaise. C'est quelque chose qui vient vraiment de nous, de nos corps, de nos émotions aussi. Du coup, c'est quelque chose qui est fait à la main, que c'est un peu artisanal, ouais.
Et pourquoi est-ce que vous avez choisi le nom pour ce spectacle cru ?
En fait, on était en création et on avait plein de thèmes et des idées par rapport à ça qu'on voulait faire, mais il n'y avait pas un truc qui englobait tout. Et on cherchait et on voulait faire quelque chose de direct, simple, choquant, mais on ne savait pas un thème principal. Et Martha a eu l'idée de cru. En fait, c'est quelque chose qui définit beaucoup les spectacles à jour d'aujourd'hui. Au moment qu'on l'a trouvé, ça nous a beaucoup aidé pour trouver une direction à toutes les idées qu'on avait dans la tête et les mettre ensemble.
On utilise un thème qui est universel. Déjà, on est deux personnes. Sur scène, c'est un homme, une femme. Et le spectacle, ça parle vraiment de l'amour, mais ça parle aussi de la folie, ça parle de nos peurs, de jusqu'où on met les limites. Et moi, je dirais que ça qui est choquant pour le public, c'est que forcément, tu t'identifies dans quelques parties de le spectacle qui peut vraiment te toucher, vu que, évidemment, ça s'appelle cru, parce qu'il n'y a pas de théâtre, finalement. C'est nous sur scène, et c'est vraiment quelque chose qui est direct.
Et qu'est-ce qui se passe entre vous sur la scène, entre un homme et une femme ?
En fait, c'est déjà, nous, on travaille beaucoup avec des scènes ou des parties ou des partitures qui sont pas très claires. C'est pas une histoire claire de début à la fin, sinon qu'on travaille sur des émotions et des choses qui passent entre les deux personnages qu'il y a sur scène. Après, c'est le public plutôt qui va se raconter une histoire. Bien sûr que nous, on a des histoires et des choses qu'on a envie de raconter, mais on les explique pas trop parce qu'on a envie que les gens ils reçoivent qu'est-ce qu'ils veulent. Après, il se passe beaucoup de choses. C'est deux personnages qui se cherchent tout le temps et qui se trouvent pas beaucoup.
Est-ce que le spectacle évolue encore?
Toujours.
Oui. Oui, oui, il s'est resserré pas mal depuis le début. Au début, il était... Bon, quand on a fait la première, on avait fait déjà beaucoup de présentations de travail. Ça fait qu'il n'était pas nouveau, mais il était fragile. Et là, on est à un moment où on l'a pas mal tourné. Il s'est resserré, il est beaucoup plus compact, maintenant, on peut dire. Ouais.
Est-ce que le spectacle s'inscrit dans la continuité de ce que vous avez fait avant aussi, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'un élément novateur?
C'est clair qu'il y a une évolution, parce que c'est nous, notre travail à nous, après des années qui a évolué. Après, quand on a commencé à faire cette création, on a voulu vraiment se surprendre et se mettre en danger, en risque. Et on a bien réussi. En fait, la création, c'était très dur pour ça, parce que c'était un travail très émotionnel, très fort, et qui nous a demandé beaucoup de nous-mêmes. Et ça fait que vraiment, ça nous a beaucoup travaillé. Et après, d'un novateur, il y a quelque chose qui c'est dans la forme et dans la dramaturgie. Il y a quelque chose qui est nouveau pour nous. Et aussi, les gens, ils nous disent que c'est nouveau pour les cirques. Mm-hmm.
Mm-hmm. Est-ce qu'on peut décrire en quoi c'est nouveau?
Ce qu'il y a de nouveau, surtout, c'est la technique circassienne. C'est avec Pa, on a fait vraiment beaucoup de portées acrobatiques, c'est notre technique principale. Dans le spectacle, il n'y a aucune figure technique pure qui vient du cirque. On a vraiment fait une recherche sur cette technique-là, et elle est au service de la dramaturgie.
Comment est-ce que cet espace vous satisfait? Est-ce que c'est convenable pour le spectacle, ici à Palais?
Ouais, en fait, d'un côté, il est très bien parce qu'il y a une proximité avec le public, et ça, on aime beaucoup. De notre côté, c'est un peu juste, c'est un peu petit. Mmh. On est habitué à jouer en plus grand, mais ça va, on rentre. Mais aussi, les scènes, elles sont très hautes, et là, on est au-dessus du public.
Oui.
Mais comme c'est proxime, je crois que ça va aller. Après, je crois qu'il y a une bonne énergie dans cette salle. On a bien senti quand on est rentré.
Est-ce que c'est votre premier passage à Prague?
Oui.
Pour l'artistique, oui.
Oui.
Mais en tant que touriste, vous voulez dire que vous êtes déjà...
Ouais, les deux, on est venus quand on avait 14 ou 15 ans. Et même on ne savait pas que l'autre, il est venu à la même âge, mm-hmm. au même endroit. Mais, ouais.
Il n'y a pas d'hasard dans la vie?
Non.
Ça, c'est sûr.
Subliminati Corporation, ce sont 5 artistes acrobates originaires des 5 coins d'Europe. Michael de Bilbao, Lorenzo de Trieste, Jordi de Barcelone, Romain de Paris et Maël de Lyon. Ces 5 artistes qui se sont présentés devant un public tchèque pour la première fois en début de semaine ont fait retenir le souffle du public tout au long de leur spectacle multilingue File Tone. Si la signification du titre est restée une énigme, il nous a été dévoilé que déjà 5 ans se sont écoulés depuis la création de certaines scènes. Ayant déjà traversé l'Espagne, le Danemark ou le Mexique, Filetone est un spectacle troublant et perturbateur qui mêle à la fois le jonglage, l'acrobatie ou la danse. Suivant une ligne non-conformiste, Filetone ne vous laissera pas indifférent tout en vous rappelant que les artistes sur scène restent soumis à la dangerosité de leur métier. Malgré ces risques de blessures parfois très graves, Subliminati Corporation manifeste énergiquement leur volonté de continuer de créer et par là d'éblouir indirectement. L'interview réalisée par Denisa Tomanova.
De quelle façon vous êtes rencontrés, étant donné que vous êtes tous originaires d'un autre lieu?
On s'est rencontrés à une école, on a fait des études de cirque, et un an après la formation, on s'est rencontrés. On avait un peu des matières, on a fait des laboratoires, on a fait pendant un an et demi des recherches, des matières, des techniques, des idées. Et après on a construit les spectacles et Roman il est arrivé un petit peu plus tard, mais il a ramené sa touche, son couleur. Et du coup on a fait tout ça ensemble et c'est le résultat, c'est Filetone.
Vous passez souvent à l'extrême sans forcément perdre le sens de la réalité. Quel est le fil conducteur du spectacle?
La robe rouge. Je pense que c'est pas vraiment un fil conducteur, mais il y a Il y a un thème qui est très clair, c'est basé vraiment sur notre société, sur notre vécu personnel, et pas que personnel non plus. Donc les fils conducteurs, on peut dire que c'est l'actualité, c'est qu'est-ce qui se passe un peu tous les jours dans la rue, dans la télé, sur un niveau politique, un niveau social. Mais il y a la robe rouge carrément, il y a ce trajet de cette femme qui arrive sur scène, qui ramène ce groupe de 5 hommes habillés en noir.
Il y a un côté aussi comme que les fils conducteurs, c'est nous. C'est la personne qui est sur scène, c'est les personnages qui se transforment, qui deviennent femmes, qui deviennent présentateurs, qui deviennent manipulateurs, qui deviennent policiers, qui deviennent tout. Mais on ne quitte jamais les scènes. Depuis les débuts jusqu'à la fin, on ne quitte jamais. Donc il y a des transformations, il y a des mutations, mais nous, en tant que personnes, on reste là tout le temps. Donc il n'y a pas un fil conducteur théâtral clair, donc une cohérence qui se tient, mais nous, on se tient tout le temps. Même si chaque personnage, il a une évolution, il part d'un côté, il part d'un autre, on va rester tout le temps là. Donc d'un point de vue théâtral, les fils conducteurs, c'est la personne. Ok, il devient une chose, il devient une autre, qui joue à ça, qui joue à l'autre, qui se perd, qui se font mal, qui a une solitude tout le temps présent. Même s'il y a 5 personnes, il y a toujours une solitude présente.
Sur scène, vous êtes 5 hommes, mais le sujet féminin, il est présent. Quel est le rôle de la femme, justement, dans votre spectacle ?
On n'a pas voulu donner un point de vue clair dans une critique. On a voulu donner un point de vue et que ça reste ouvert. Donc, chaque spectateur peut avoir sa propre lecture. Donc, il y a des gens qui vont dire ça. Ça parle de la maltraitement de la femme, ça parle de l'abus, ça parle de la libération. Ça, on aime bien les laisser libres. Dans la recherche, on a essayé pas tout à fait parler de la femme, sinon comme un homme trouve sa féminité en soi. C'est le point de départ. Après, ça est devenu ces scènes un peu fortes, c'est un peu tragique. Mais on essaie un peu de laisser ouvert, une ouverture. Donc, comme tu étais aujourd'hui, comme tu as vu, dans les moments où on montre les sexes, il y a des moments comme ça, il y a des réactions très différentes. Il y a des gens qui tapent dans les mains, il y a des gens qui rigolent, des gens qui rigolent pas du tout, il y a des gens qui peuvent même pleurer, qui peuvent être vraiment mal à l'aise. Donc, nous, on donne un point de vue, mais qu'est-ce qu'il reçoit, c'est très différent. Donc ça, on aime bien. Pas donner une vérité. On ramène aucune vérité. Selon ton vécu, selon ta façon de penser, tu vas recevoir une chose ou une autre.
Il y a aussi un peu un parodie du cirque traditionnel, revu. On peut dire comme si c'était les cirques de la société, c'est les cirques de l'aujourd'hui. Et ces politiciens qui se ressemblent de plus en plus à des clowns, et des choses qu'on voit tous les jours dans la rue ou qu'on les voit très bien dans la télé, mais qui sont devenues si normales et si simples et si que déjà on n'y réfléchit plus. Tu vois, le rôle de la femme carrément dans les médias, souvent c'est un peu mis comme tu vois, t'es belle, alors on te met là au milieu habillée en rouge. Et si t'es pas belle, tu vas pas sortir sur ces plateaux de télévision, tu vas pas faire beaucoup de cinéma, tu comprends un peu. C'est dur, non? Une des idées de base, c'est aussi que les publics prennent conscience de son rôle. Je veux dire, à un moment donné, on est habitué à être trop public de tout. Donc, bon, ça nous arrivait, des gens qui se sont mis debout, ils ont dit « Ah, mais ça va pas du tout ». Bah, oui, c'est clair que ça va pas du tout. C'est en montrant qu'est-ce qui ça va pas, c'est qu'on se rend compte que ça arrive tous les jours.
Et en plein milieu du spectacle, les gens se sont levés pour dire...
Bah, ça nous arrivait ça aussi. Ça nous arrivait plein de choses. Chaque pays a une culture très différente, même si on est tous européens, entre guillemets. Et chaque pays a une culture très différente, il y a un sens de l'humour très 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 différent. Nous, on était habitués à faire cette scène, par exemple, en France, où les gens ils étaient impactés, il y avait une réaction assez obscure, on peut dire. C'était pas forcément la folie. Alors que plus on bouge vers le nord de l'Europe, plus les gens rigolent par rapport à ça, ils rigolent, jusqu'à les moments où ils ont une prise de conscience de dire « Ah, peut-être je suis en train de rire pour quelque chose qui c'est pas bien du tout ». Et c'est ça qui pour moi c'est intéressant, parce que le public est actif, il existe, ils ont un grand pouvoir. C'est bien quand les gens sortent d'ici, s'ils sortent troublés, c'est quand même une réussite. S'ils sortent dérangés, c'est quand même une réussite. Dans les cirques modernes, dans les cirques en général, c'est qu'on... Pas beaucoup de fois, on on se pose des questions qui vont au-delà du virtuosisme, de l'exhibition, de quelque chose, de la maîtrise de la technique, de la discipline. Mais alors que notre recherche, c'est un peu aussi ramener notre technique, notre cirque, mais trouver une façon pour que les gens y prennent aussi un message derrière. Pas que on s'appelle des confettis et des paillettes. Quoi, ça. Mm. Il n'y a pas que des applaudissements, il y a aussi des pleurs, des cris, de la douleur. La douleur, elle est très présente dans les cirques, quand même. Un cirque, c'est un spectacle. C'est pas trop douloureux pour le public, mais pour les artistes, c'est très très dur. Nous, on est tous, à un moment donné, on était tous blessés. Donc, c'est des choses qui sont très très présentes dans ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours.
Votre spectacle, il est multilingue. Est-ce que c'est seulement en raison de vos différentes nationalités?
Ben, il y a une thématique aussi qui est centrale dans le spectacle, c'est l'Europe. Bon, justement, l'Europe, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. Parce que moi, j'ai rien à voir avec n'importe quel autre pays. On peut avoir plein de choses en commun, mais des fois, on ne s'entend même pas. On est tous obligés à parler en anglais. Alors que ce n'est pas ma langue, mais c'est l'unique façon que j'ai pu parler avec des autres Européens. Au moins, qu'eux, ils parlent français, eux, ils parlent espagnol. Ben, on a tous, ici, tous, on parle beaucoup de langues. Et je pense que ça ramène aussi à quelque chose d'honnête, de vrai. Et dans les spectacles. Bon, en fait, je parle beaucoup plus italien dans les spectacles que dans le reste de la journée.
C'est vrai.
Donc, pourquoi pas, c'est un bon moment aussi pour récupérer. Lui, il parle en basque à un moment donné.
Le spectacle, on l'a fait en anglais, en français, en espagnol et en italien.
Avec ces quatre langues-là, tu as déjà la possibilité de voyager pas mal. Et de faire comprendre. Mais de toute façon, oui, il y a une thématique quand même européenne. Est-ce qu'il y a des européennes au-delà de l'euro? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous tient unis, qui nous rassemble vraiment? Ça, c'est un peu la question. Quoi. Au-delà des côtés financiers, des côtés business, politique. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que nous mettre tous ensemble? Je me pose des questions.
Dans sa rubrique littéraire, Václav Richter vous parlera du livre qui est une plongée dans la période la plus sombre de l'histoire de Prague. Le livre, conçu comme un guide historique de la capitale tchèque, vient d'obtenir une haute distinction littéraire.
Rencontre littéraire. Le prix Magnesia Litera reste sans doute la distinction littéraire la plus prestigieuse qu'un auteur tchèque puisse obtenir. Tous les ans, les prix Magnesia Litera sont décernés dans plusieurs catégories et le jury choisit également le livre de l'année pour distinguer le meilleur ouvrage, toutes catégories confondues. Pendant les dernières années, cette espèce de grand prix semblait réservé à des romans, mais cette fois-ci, le jury a couronné l'ouvrage d'une catégorie bien différente. Le livre « Le guide de Prague sous le protectorat allemand » Průvodce protektorátní Prahou retrace pas à pas l'histoire de Prague entre 1939 et 1945 et amène le lecteur aux endroits précis où de divers événements de la grande et de la petite histoire se sont produits. L'ambition de son auteur Jiří Padevět n'a été que de rassembler les faits sans y ajouter une subjectivité littéraire. « Je ne suis pas un écrivain », affirme-t-il. « C'est l'effet boule de neige qui est caractéristique pour la gestation du livre de Jiří Padevět. Au début, il ne va écrire qu'un petit guide des endroits les plus importants de l'histoire de Prague sous l'occupation, mais il découvre toujours de nouvelles informations qui lui semblent intéressantes et son manuscrit ne cesse de gonfler. Au bout des recherches de 4 ans, l'auteur finit par réunir une formidable quantité d'informations et de photos et décide d'abandonner le projet d'écrire une modeste brochure d'une centaine de pages. C'est ainsi que voit le jour un important volume pesant 2,5 kg qui compte 804 pages et ne peut plus être utilisé comme un guide, mais devient un ouvrage de référence pour tous ceux qui s'intéressent à la sombre période de l'occupation. Plus, Jiří Padevět réussit à dépasser le cercle relativement restreint des amateurs d'histoire, parvient à attirer d'autres lecteurs et son ouvrage finit par devenir le livre de l'année. L'auteur lui-même est surpris par ce succès. Il explique que Prague sous l'occupation est un thème qui le touche profondément.
C'est un thème personnel parce que je pense que notre mémoire historique ne comprend pas seulement la période qui débute avec notre naissance, mais s'étend encore à la génération de nos parents. Je suis né quelques années après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et ce sont les membres de ma famille qui m'ont fait connaître intensément l'histoire de la guerre. Mon oncle est mort dans le camp de concentration de Mauthausen.
Jiří Padevět est un géomètre de métier devenu éditeur. Aujourd'hui, il est directeur de la maison d'édition Academia, fondée en 1953 en tant qu'établissement de l'Académie des sciences tchécoslovaques. Il n'est pas un historien et ne se considère que comme un amateur s'intéressant à Prague et à la Deuxième Guerre mondiale qui a écrit un guide. Il refuse également de considérer son livre comme une œuvre littéraire.
Je ne suis pas un écrivain. Mes livres ne sont ni romans, ni contes, ni poèmes. Je ne suis que celui qui compose un ensemble à partir de divers éléments. Mes livres ne sont que des ensembles d'informations. Mon livre sur Prague sous le protectorat a peut-être l'avantage ou le désavantage que je m'abstiens de juger les événements. Je dis seulement, c'est à cet endroit que tel ou tel événement s'est produit en présence de telle ou telle personne.
S'appuyant sur d'innombrables photos historiques, dont certaines encore inédites, l'auteur guide son lecteur à travers les rues, les places et les maisons de Prague qui ont été le théâtre de grands et de petits événements de l'histoire de l'occupation. Il l'amène dans les institutions et les palais où ont été prises des décisions importantes pour la vie ou la mort de millions d'habitants, mais aussi dans de modestes appartements où se cachaient des membres de la résistance. Il évoque la vie quotidienne sous l'occupation et ne néglige pas non plus la vie culturelle qui existait malgré l'oppression nazie. Il s'arrête au château de Prague et au palais Tchernin pour répertorier les activités du gouvernement, du président Emil Hácha et des protecteurs de Bohême-Moravie. Il entre dans la prison du quartier de Pankrác et dans le palais Pecek où les nazis ont torturé à mort de nombreux résistants. Il évoque le quartier juif, dont les habitants étaient progressivement déportés dans des camps de concentration et qui se transformait en un musée de la race disparue. Il se rend aussi dans les studios de cinéma de Barrandov, placés sous une surveillance étroite des autorités d'occupation, mais qui n'ont pas cessé pour autant de produire de nombreux films. Il découvre presque dans chaque rue, dans chaque place, les séquelles de l'histoire de cette sombre période. Faire ressurgir de l'oubli ces souvenirs innombrables du temps révolu a été un travail de fourmi.
Ma principale source a été, du moins au début, ma bibliothèque personnelle. J'ai donc beaucoup puisé dans la littérature. Ensuite, j'ai été obligé de chercher dans les archives. J'ai beaucoup fouillé dans les archives nationales et j'ai trouvé également de nombreuses informations dans les archives des forces de sécurité. Parce que dans les années 1960, on a rouvert l'enquête sur beaucoup de crimes nazis et les documents sur cette période ont été conservés. Par contre, j'ai relativement peu interrogé les témoins de ces événements parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Et puis, je me suis aperçu que souvent, les souvenirs de deux témoins oculaires du même événement sont assez différents.
Jiří Padevět se lance dans son livre aussi sur les traces du mouvement de la résistance, sur la résurrection de Prague en 1945 et sur l'attentat contre le vice-protecteur de Bohême-Moravie, Reinhard Heydrich. L'attentat organisé en mai 1942 par un groupe de parachutistes tchécoslovaques a été suivi de cruelles représailles et les massacres des habitants des villages de Lidice et de Léjaky. Jiří Padevět observe une stricte objectivité et se garde de donner son opinion sur ces événements, mais cela ne l'empêche pas de considérer l'attentat, malgré ses conséquences tragiques, comme un événement majeur de l'histoire de l'occupation.
C'est un des plus grands actes de résistance de la Deuxième Guerre mondiale dans toute l'Europe. Nous avons liquidé le troisième homme le plus puissant du Troisième Reich. À mon avis, cet attentat a eu une grande signification. Je le dis et je le dirai toujours. Si Heydrich était resté en vie, je ne suis pas historien et je peux donc me permettre ce conditionnel, si l'attentat donc n'avait pas eu lieu, Heydrich aurait fait disparaître tout le peuple tchèque.
Pendant presque 4 ans, Jiří Padevět a été plongé dans l'histoire de l'occupation, ce que l'a amené, comme il dit, au bord d'une crise psychique. C'est pour y échapper qu'il a décidé de mettre fin à son travail. Sans cela, il aurait pu continuer encore longtemps en découvrant toujours de nouvelles informations intéressantes et parfois surprenantes sur l'histoire du protectorat.
J'ai été surpris par la fréquence de l'héroïsme d'un grand nombre de personnes, des personnes dont on ne parle plus et qui sont complètement oubliées aujourd'hui. Nous ne connaissons que quelques noms. Et d'autre part, j'ai été surpris également par la fréquence des cas de collaboration pour des raisons financières ou idéologiques, souvent pour les deux à la fois. Je ne partage cependant pas l'idée très répandue aujourd'hui selon laquelle les Tchèques auraient été les plus grands collaborateurs. Je crois que c'est complètement faux. Dans la société, il y a à chaque époque le même pourcentage d'individus méprisables et de personnes courageuses et braves, mais cela ne se manifeste que dans les situations extrêmes.
Ainsi s'achève notre émission de ce week-end, une émission préparée par l'équipe de Radio Prague et présentée par Lucie Drexelová. Merci d'avoir suivi ce programme. À très bientôt sur les ondes de Radio Prague.